Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Après les informations de ces dernières heures sur lesquelles nous n'allons pas revenir, nous nous retrouvons pour un point sur les principaux faits de ces derniers jours, avec bien sûr les reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Cette semaine, nous allons reparler d'un sujet douloureux, le génocide rwandais de 1994 et l'objectif de l'intervention française turquoise. Nous sommes en compagnie de Guillaume Ancel, un ancien officier français qui a participé à cette opération et qui témoigne dans un livre passionnant, Rwanda, la fin du silence, un ouvrage publié aux éditions Belles Lettres dans la collection Mémoires de guerre, qui remet en cause la version officielle des autorités françaises pour lesquelles Turquoise ne fut qu'une opération humanitaire. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur l'application RFI Pure Radio et sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Guillaume Ancel.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Je l'ai dit, vous êtes un ancien lieutenant-colonel, sorti de Saint-Cyr, s'il vous plaît. Et vous racontez donc dans ce livre ce que vous avez vu au Rwanda pendant que vous y étiez. Tout comme vous avez raconté en 1980, il y a quelques années, votre mission à Sarajevo dans un livre aussi, publié aux Belles Lettres.
Tout à fait, dans Vent glacial sur Sarajevo.
Un livre donc publié dans cette collection. Votre livre est une nouvelle pièce à verser au dossier génocide Rwanda et sur le rôle de la France surtout. Vous dites que c'est un témoignage, c'est assez modeste, subjectif et limité, mais c'est en tout cas un témoignage édifiant. Je précise que vous avez été au Rwanda du 22 juin 1994 au 7 août de la même année. Et il faut rappeler que le 6 avril au soir, le crash de l'avion qui transportait le président rwandais Habyarimana et son homologue burundais a déclenché le soir même un génocide qui a fait au bas mot 800 000 morts. Et que quelques mois plus tard, plus de deux mois après, le 22 juin, l'ONU a pris une résolution, la résolution 929, qui autorisait les Français à déployer une force au Rwanda, une force qui avait, disait Paris, une mission humanitaire, mais on sait aujourd'hui que c'était beaucoup plus compliqué.
Oui, une mission dans un contexte d'autant plus compliqué que le génocide des Tutsis au Rwanda est le dernier génocide du XXe siècle. Mais c'est le seul génocide que nous aurions pu empêcher. Et c'est là où le rôle de la France est un sujet tragique, c'est que nous sommes intervenus militairement dans le cadre de l'opération turquoise. Je crois que mes camarades et moi aurions aimé pouvoir nous battre contre les génocidaires. Et malheureusement, ce que nous avons fait a été exactement le contraire.
Ouais. On va critiquer l'action de la France, enfin une partie de son action, Guillaume Ancel, mais il faut quand même préciser qu'entre le 6 avril et le 22 juin, ce qu'on appelle la communauté internationale était absente. Elle était effacée. Il y avait d'ailleurs une force des Nations Unies sur place qui devait veiller au respect des accords d'Arusha signés en Tanzanie quelques temps avant, et cette force de la MINUAR a été retirée.
Elle a été totalement inexistante. C'est d'autant plus ennuyeux que même s'ils n'étaient sans doute pas assez nombreux pour empêcher la crise, ils auraient pu agir, ne serait-ce que dans Kigali. Mais ça, c'est un autre sujet qui a sans doute rendu fou, d'ailleurs, le général Dallaire, qui dirigeait la mission de l'ONU. Ouais. Ils ne se sont jamais remis de cette totale inaction.
Et donc les Français sont arrivés à partir du 22 juin, c'est là que commence votre témoignage. Ah, je dois préciser, Guillaume Ancel, qu'il y a une grande curiosité de la part de nos auditeurs hein, sur ce qui s'est passé au Rwanda, parce que ça fait déjà 24 ans, il y a une nouvelle génération qui est apparue depuis. Je cite trois messages que nous ont envoyés nos auditeurs. André, qui nous écoute au Burkina Faso, à Koudougou, qui dit « La France doit avoir le courage d'assumer son passé, même dans ses pages les plus sombres, comme dans le génocide rwandais ». Ou alors Yaa qui nous écoute lui à Yaoundé, il se demande quel a été le rôle précis de la France, que reproche-t-on à la France, demande-t-il. Et troisième message, celui de Bachir qui lui est à Dakar et qui écrit ceci, et si c'était une opération humanitaire, que fut-elle? À quel moment s'est-il rendu compte du subterfuge de l'État français? Comment vit-il cette situation depuis? Là il s'adresse à vous. Qu'espère-t-il après avoir mis à nu cette affaire? Donc vous voyez, il y a une grande curiosité, ça ne vous étonne pas j'imagine.
Je crois que c'est un sujet d'autant plus lourd que la France, non seulement s'est trompée dans cette intervention au Rwanda, mais en plus, elle a enfoui le sujet pendant 24 ans. un peu à l'instar de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec les déchets nucléaires à Bure. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ce sujet, donc on l'enfouit le plus profondément possible. Et mon sentiment, mais ça n'est qu'un sentiment personnel, c'est que quelques décideurs français à l'époque, je rappelle qu'on était en gouvernement de cohabitation très complexe, le président Mitterrand mourant, le secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine, et Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Balladur.
Balladur, c'est ça.
Donc un gouvernement sous tension permanente, à l'approche des élections, qui prend sans doute des décisions plus sur des... il y a des coups politiques en ayant vraiment conscience de ce qui se passe au Rwanda et qui décide que l'intervention au Rwanda va malheureusement aboutir à un soutien du régime qui commet le génocide. On s'est complètement trompé, je pense qu'on reviendra dessus, mais ce qui est terrifiant, c'est que au retour, c'est quelques décideurs qui se sont trompés. Non seulement n'ont pas eu le courage de le reconnaître, mais en plus ont demandé à Paul Quilès, qui n'avait aucun rôle dans le gouvernement de l'époque, mais sous l'égide de la mission parlementaire d'information, 4 ans plus tard, de de couler une chape de béton sur le sujet pour que surtout les Français ne puissent pas savoir quelle a été cette opération qui, je le rappelle, a été menée au nom de la France.
Alors les conséquences de ces... On va revenir évidemment sur ce témoignage et sur ce moment que vous avez passé au Rwanda. Il y a deux temps forts dans votre livre notamment. Alors il faut quand même préciser que les conséquences de ce génocide, de cette guerre civile, se font encore sentir, Guillaume Ancel. J'en veux pour preuve la question des réfugiés rwandais, question cruciale. Il serait encore quelques 200 000 en République démocratique du Congo et leur rapatriement se fait à pas comptés, comme nous l'a dit mardi Florence Maurice à Goma.
En 2017, le rythme des rapatriements volontaires des réfugiés rwandais s'était accéléré, 18 000 retours en un an. Mais ces 3 derniers mois, le nombre de candidats au retour a drastiquement chuté, 750 seulement depuis le début de l'année. Un processus de retour lent et fragile. Parmi ces réfugiés, beaucoup n'ont plus aucune attache dans leur pays. Résultat, le HCR, tout en plaidant pour ces rapatriements, considère qu'il serait temps d'envisager aussi des alternatives. Quelles alternatives, répond Kinshasa en substance, quand on ne sait pas précisément ni où ni combien sont ces réfugiés. En 2014, la Commission nationale pour les réfugiés en avait pourtant recensé 245 000, mais ce n'était qu'une estimation sur la base de déclarations volontaires. L'année suivante, le HCR et la CNR ont tenté un enregistrement biométrique qu'ils ont dû interrompre après une attaque contre un de leurs centres par des FDLR, ces rebelles hutus rwandais qui s'opposent au rapatriement au Rwanda, au motif que la sécurité des réfugiés n'y serait toujours pas garantie. Il y a un mois, le processus d'enregistrement biométrique a été relancé et cette fois, malgré beaucoup de méfiance, des discussions sont en cours entre la CNR et la branche la plus radicale des FDLR pour les convaincre d'y adhérer.
Alors Florence Maurice nous a envoyé ce reportage à Goma, c'est la première ville que vous avez vue en arrivant en mission le 22 juin ou dans les heures qui ont suivi.
Tout à fait, c'est là où nous avons débarqué. La mission française en réalité devait être une mission quasi par surprise. Et nous avions un ordre préparatoire qui était de monter un raid terrestre jusqu'à Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place bien sûr le gouvernement de l'époque.
Ah, ça c'est déjà une information importante. Hein.
Le seul hic dans l'affaire, et qu'on avait bien sûr oublié de nous préciser, c'est que le gouvernement qu'on voulait remettre en place commettait le génocide.
Précision pourtant importante.
Alors, d'autant plus choquante que j'ai longtemps pensé, pendant pratiquement 20 ans, que le gouvernement français avait pu... Pardon, les décideurs de l'époque, puisque ça se joue entre l'Élysée et le gouvernement français, que les décideurs de l'époque avaient pu se tromper dans la confusion de l'époque, qui avait été d'ailleurs soigneusement entretenue. On avait pris garde de ne pas parler trop vite de génocide, on avait montré que c'était deux factions qui se battaient, qu'une brutalité incroyable. Alors que j'ai découvert en 2014 un rapport de la DGSE, notre service officiel de renseignement extérieur, qui précisait aux décideurs français de l'époque, nous sommes le 4 mai 94, c'est-à-dire à peine un mois après le déclenchement du génocide. Une analyse qui est parfaitement transparente et claire et qui dit le gouvernement que nous soutenons est l'organisateur des massacres de grande ampleur. Si nous ne le condamnons pas, nous serons un jour accusés de complicité de génocide. Voilà. Ça veut dire que nos décideurs de l'époque ont reçu cette alerte de la part de leur service de renseignement. Et ils l'ont quand même écarté en nous demandant d'intervenir au profit du régime génocidaire. Et c'est ça qui serait extrêmement intéressant en ouvrant les archives, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les sources, les informations et les personnes qui ont influencé nos décideurs. J'imagine pas deux secondes qu'ils aient souhaité participer à un génocide. Mais qu'est-ce qui y a fait qu'ils ont pris des décisions qui sont totalement contraires aux valeurs de la France et à l'éthique de l'armée française, qui s'est retrouvée dans une situation totalement inacceptable. Il faut imaginer que mes camarades, mes compagnons d'armes, ont fait de manière très professionnelle ce qu'on leur a demandé. Mais ils sont retrouvés dans une situation, comme je vais l'expliquer, comme je le raconte dans ce témoignage, nous avons clairement soutenu le régime génocidaire. Et c'est ça qui est inacceptable et irresponsable. Mais plus encore, de ne pas l'avoir dit, de l'avoir caché pendant 25 ans, c'était permettre que cela puisse se reproduire. Or, il se trouve que dans l'année qui suit notre opération turquoise au Rwanda, je pars avec une autre unité de Légion étrangère à Sarajevo. Et j'assiste au massacre de Srebrenica.
Un an plus tard.
Nous devions protéger cette enclave. Nous avons assisté impuissants au massacre de la population civile parce que nous avions l'interdiction de nous en prendre aux Serbes alors qu'ils étaient les agresseurs dans ce conflit. Voilà. Donc je pense que cette défaillance totale de la politique de la France dans cette période-là doit être étudiée et comprise. Sinon, on prend le risque qu'elle puisse se reproduire.
D'ailleurs, votre préfacier, l'historien de l'école des hautes études, Stéphane Audouin-Rouzeau, parle de Turquoise 1 et de Turquoise 2, cette mission de soutien et de cette mission humanitaire.
On imagine, mais on en sera sûr que quand on pourra avoir accès aux archives, car je rappelle que ce qui est toujours présenté en France, par les responsables d'ailleurs de l'époque, comme étant une opération strictement humanitaire, qui nie à l'évidence les témoignages les plus factuels comme le mien, essaye de nous faire croire que cette opération était strictement humanitaire. Alors à ce moment-là, qu'il nous explique pourquoi les archives en sont bouclées un quart de siècle après. Ça n'a pas de sens. On devrait être extrêmement fiers de montrer aux chercheurs du monde entier ce que la France a voulu faire au Rwanda. Or, on le boucle. Pourquoi est-ce qu'on le boucle?
Il faut rappeler en deux mots, Guillaume Ancel, ce que vous faisiez. Quel était votre rôle dans cette opération turquoise? Pourquoi on vous a appelé, en fait?
Alors, je suis parti dans un rôle extrêmement offensif, puisque à l'époque, j'étais un spécialiste du guidage des frappes aériennes. Donc, ce sont les toutes petites équipes spéciales qui sont très proches des cibles et qui s'assurent que les avions vont détruire les bons objectifs. Donc, je suis parti au sein d'une unité de combat à la Légion étrangère. Et nous sommes partis dans le cadre, je dirais, d'un déploiement de forces, qui étaient les meilleures unités de combat de l'armée française de l'époque, plus des avions de chasse, qui étaient basés à Kisangani, au Zaïre, donc aujourd'hui la République du Congo. Clairement pas dans un but de faire des frappes humanitaires. Voilà. Donc on est parti avec cette mission d'aller chercher la capitale et de remettre en place le gouvernement. Cette mission n'a pas été effectuée. C'est-à-dire quand on est arrivé à Goma, donc on est dans les derniers jours du mois de juin, on sent à ce moment-là une espèce de trouble dans les décisions françaises et il y a un officier opération qui vient récupérer notre ordre préparatoire d'opération comme s'il ne devait jamais avoir existé. Et c'est là où on comprend qu'en réalité, il y a deux opérations turquoises qui sont complètement entremêlées. Il y a un clan, je dirais plutôt, de non-interventionnistes qui essayent de faire en sorte que ces missions soient la plus limitée possible, quitte d'ailleurs à ne rien faire pour les rescapés et tout de suite. Mais voilà, ils sont plutôt opposés à l'intervention de la France. Et puis, il y a un clan de faucons qui est omniprésent aussi bien à l'Élysée que dans le gouvernement et qui, lui, en permanence, va essayer de revenir sur « on va se battre » avec ce gouvernement qu'on soutient depuis 4 ans, dont on a refusé de voir la dérive génocidaire, alors qu'elle avait été annoncée, notamment par le général Varé, qui au cours d'une inspection était au ministère de la Coopération, était revenu du Rwanda en attirant l'attention sur le fait que, compte tenu des discours que portait à l'époque le gouvernement rwandais, celui qu'on soutenait, on pouvait craindre le pire. Ouais. Or, Varé a été écarté. Voilà, ça fait partie de ces archives qu'il faut absolument qu'on arrive à comprendre, parce que ce que je montre à travers mon témoignage, c'est que d'une part, la manière dont on présente le rôle de la France au Rwanda dans le génocide des Tutsis est totalement faux. Il est tellement partiel qu'il en est faux. C'est le paravent qu'on nous présente, c'est pas la réalité des choses. Mais en plus, on aurait pu se tromper, je dirais, au départ. Mais quand on arrive au Rwanda, se passe le drame de Bicécéro. C'est-à-dire que dans les collines...
On va en reparler, évidemment, qui est un épisode à la fois tragique et vraiment symptomatique de la mission de l'armée française à l'époque. Mais on va faire un détour, si j'ose dire, par la Syrie, tout de suite.
Sept jours dans le monde.
Alors, on vous parle dans nos journaux des derniers développements de la guerre en Syrie, des opérations américaines et françaises notamment annoncées depuis mardi. Revenons-nous à ce qui s'est passé ces derniers jours. Selon les casques blancs, c'est-à-dire les secouristes en zone rebelle et une ONG médicale, plus de 40 personnes ont été tuées samedi dernier dans le dernier bastion rebelle dans la Ghouta orientale aux portes de Damas, tandis que plus de 500 blessés ont été soignés notamment pour des difficultés respiratoires, entre guillemets. L'arme chimique aurait été employée. Du coup, la France a demandé une réunion du Conseil de sécurité pour la constitution d'une commission d'enquête. Moscou a dit non. À New York mardi, Marie Bourreau.
Les États-Unis avaient demandé en urgence un vote pour relancer un mécanisme d'enquête international et impartial pour attribuer les responsabilités des attaques chimiques. À la suite du veto russe, l'ambassadrice américaine accuse.
L'histoire se souviendra que ce jour, la Russie a préféré choisir de protéger un monstre plutôt que la vie du peuple syrien.
Mais l'enjeu de cette résolution est ailleurs et l'ambassadeur russe l'a bien souligné. Les Occidentaux ont proposé cette résolution en sachant pertinemment qu'ils se heurteraient à un veto. Ils vont pouvoir justifier des frappes en Syrie, a-t-il accusé, condamnant par avance ce qu'il a qualifié d'aventure militaire et illégale, une intervention plausible que la France a semblé légitimée par le risque d'effondrement du régime de non-prolifération.
Laisser se banaliser sans réagir l'usage des armes chimiques, c'est laisser le génie de la prolifération des armes de destruction massive, qui constitue une menace existentielle pour nous tous, sortir de sa bouteille. Les conséquences seraient terribles et nous en payerions tous le prix. C'est pourquoi nous ne pouvons pas l'accepter.
En cas de frappe, la Russie a d'ores et déjà prévenu des très graves répercussions que cela pourrait avoir pour toute la région.
Dans ce contexte, Israël semble changer de stratégie en Syrie. Bombardement d'une base syrienne et prise de position des religieux semblent en être la preuve. Jérusalem, Guilhem Deltaï.
Ce dimanche, alors que les images arrivaient de Douma et que les secouristes parlaient de dizaines de morts dans une attaque au gaz menée par les troupes de Bachar al-Assad, plusieurs voix se sont élevées en Israël pour réclamer une intervention du pays. Israël a un devoir moral de réagir, a ainsi estimé le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef. Ce qui se passe en Syrie est un génocide de femmes et d'enfants dans sa forme la plus cruelle, avec l'utilisation d'armes de destruction massive, a-t-il jugé, poursuivant « En tant que juifs, nous avons subi l'expérience du génocide. Il est de notre obligation d'essayer d'arrêter ces meurtres. Une obligation morale qui se combine à un intérêt stratégique, a pour sa part souligné le major général de réserve Amos Yadlin, un ancien chef des renseignements militaires. Plusieurs analystes pointent en effet qu'Israël est désormais laissé à lui-même. Donald Trump a annoncé un prochain retrait des États-Unis de Syrie et s'il existe un dialogue avec les Russes, Moscou reste l'allié de Damas. La conséquence est qu'Israël devra agir contre ce qu'il définit comme un franchissement des lignes rouges qu'il a dessinées, écrivait ainsi ce lundi matin Yoav Limor dans le quotidien Israël Hayom. Un journal proche du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Et c'est donc aussi dans ce contexte et dans le contexte de la guerre au Yémen que le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, dit MBS, a effectué un court voyage officiel à Paris où il a rencontré le président Macron, Nicolas Falaise.
Mohamed Ben Salman a des mots très durs lorsqu'il parle de l'Iran. Pour le prince héritier d'Arabie Saoudite, l'accord nucléaire a surtout permis à Téhéran d'étendre son influence régionale.
Le régime iranien ne cherche pas l'intérêt de l'Iran, mais il est au service d'une idéologie et nous en avons beaucoup souffert au cours des 30 dernières années. Avec les 150 milliards de dollars que les Iraniens ont reçus avec la levée des sanctions internationales, ils n'ont pas construit une seule école ni une seule route, mais ils ont acheté des missiles qui visent l'Arabie Saoudite.
Exercice délicat pour Emmanuel Macron qui défend l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien actuellement remis en cause par Washington. Exercice délicat aussi pour le président français lorsqu'il évoque l'intervention militaire de l'Arabie Saoudite au Yémen et les armes françaises utilisées dans ce conflit.
Depuis le déclenchement du conflit au Yémen, la France a adopté un processus de conclusion de contrats d'armement très spécifique. Toute vente de matériel militaire est soumise à une analyse au cas par cas et sur la base de critères renforcés qui tiennent compte du respect du droit international humanitaire et des risques de dommages sur les populations civiles.
Le président français annonce qu'une conférence humanitaire sur le Yémen sera organisée d'ici l'été prochain à Paris.
Bien entendu, les derniers développements militaires ou pas de cette crise sont à suivre dans nos journaux et nos éditions spéciales, ainsi que sur le site de la radio www.rfi.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Ancel qui vient de publier « Rwanda, la fin du silence », témoignage d'un officier français aux éditions Les Belles Lettres dans la collection célèbre « Mémoire de guerre ». Vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu sur la Syrie, Guillaume Ancel ?
Oui, la Syrie aujourd'hui, comme hier la Libye, je pense que ça fait partie de toutes ces opérations qu'on mène au nom de la France et sur lesquelles les Français devraient s'inquiéter de ce qui a été fait en réalité. C'est-à-dire qu'au-delà du secret opérationnel, pendant lequel on ne peut rien dire, mais après, de savoir quel est le contrôle démocratique que nous exerçons réellement sur ces opérations pour savoir ce qui s'est passé. Or, je pense que nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé en Libye et j'espère qu'un jour nous saurons ce que nous avons fait en réalité en Syrie. Voilà. Je le fais par référence au Rwanda où un quart de siècle après, nous n'arrivons toujours pas à savoir ce qui a été mené au nom de la France.
C'est-à-dire qu'il faudrait que les députés se penchent sur la question, par exemple? Vraiment?
Il faudrait surtout que les Français arrêtent d'accepter que soient juges et partis les décideurs de ces opérations. Ouais. Et qu'ils monopolisent la communication sur le sujet et qu'ils exercent encore ce système d'accréditation défense pour les journalistes, alors qu'il me semble que les journalistes sont le premier rempart à une information, pertinente et équilibrée.
Alors je voudrais qu'on revienne à cet épisode tragique, ô combien symptomatique de ce qui s'est passé dans la forêt de Bicêcero au mois de juin, fin du mois de juin, 27 juin en 1994, en plein génocide. Il faut rappeler en deux mots, dites-nous ce qui s'est passé à ce moment-là.
Ce qui est terrifiant, c'est que c'est une démonstration du génocide. C'est-à-dire que le 27 juin, mes camarades des forces spéciales rentrent sur les collines de Bicêcero et ils sont en reconnaissance. En fait, leur mission, c'est de chercher les soldats ennemi du gouvernement qu'on soutient, le FPR. Et ils trouvent des rescapés qui sont dans un état lamentable. Ils sont couverts de blessures, entourés de charniers, enfin, ils n'ont aucun doute sur le fait que ce ne sont sûrement pas des espions du FPR, ce sont juste des rescapés de massacres odieux. Et ils voient qui les massacre, parce qu'au moment où ils discutent avec eux, ils voient arriver des colonnes de véhicules dans lesquelles il y a les forces gouvernementales, l'armée rwandaise, celle qu'on soutient depuis 4 ans, les gendarmes, celles qu'on soutient depuis des années, on a même envoyé des officiers de gendarmerie pour les aider, et les milices. Ils sont tous ensemble. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent ces hommes et ces femmes pour les massacrer.
Alors que nous sommes en pleine zone humanitaire sûre.
Hein. Pas encore.
Pas encore.
On est rentré au Rwanda.
Ouais.
On est du côté qu'on soutient. Ouais. Donc on est en train de voir une démonstration du génocide. Et là, l'ordre que reçoivent mes camarades est absolument inouï. On leur demande de se retirer. Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des rescapés, il faut absolument aller chercher où est l'ennemi du FPR. C'est-à-dire que on est totalement obnubilé, et ce ne sont pas les officiers qui étaient là-bas qui ont pris ces décisions, hein. Ça sont des directives qui viennent du plus haut niveau de l'État. On est totalement obnubilé par stopper et se battre contre le FPR. On en oublie même les rescapés, alors que c'est la raison officielle pour laquelle on est venu. Et ce qui est terrifiant, et j'ai mis longtemps aussi à le comprendre, c'est que en parallèle, je suis avec une unité de combat de la Légion étrangère qui est aussi importante que l'ensemble des forces spéciales qui sont là à Bicêcero. Nous sommes sur l'aéroport de Bukavu, l'arme au pied, et nous attendons. Et le 30, au moment où un de mes camarades des forces spéciales décide de désobéir sans le dire, c'est-à-dire qu'il se perd, il retrouve les rescapés, et il oblige le commandement à déclencher une opération de secours. Le 30, nous, l'unité de combat dans laquelle je suis, 150 légionnaires parfaitement équipés et entraînés, reçoit enfin l'ordre de se mobiliser. Et pas pour aller protéger les rescapés, pour aller se battre contre le FPR.
C'est-à-dire stopper une colonne.
Et là, on nous envoie tendre une embuscade, donc frapper fort, à l'est de la forêt Nyungwe, pour justement se battre contre ces soldats, les ennemis des génocidaires. Mais on est obnubilé de se battre contre eux.
Alors donc, vous vous préparez, vous faites un repérage, vous l'expliquez très bien dans le livre, vous commencez à imaginer ce qui va se passer. Et le 1er juillet, au petit matin, que se passe-t-il?
Donc l'opération va se déclencher, les avions sont déjà en vol, sont des Jaguars qui arrivent du Zaïre aujourd'hui et la RDC. Moi je suis dans un hélicoptère, on va me déposer sur un site de guidage, tout est enclenché. Et à ce moment-là, l'opération est annulée alors qu'elle est enclenchée. Elle est annulée par le PC Jupiter qui est sous l'Elysée. Et je suis assez persuadé, parce que j'ai eu le témoignage d'un camarade pilote, que l'Elysée a pris peur à ce moment-là de comprendre que si on frappait devant les yeux du monde entier sur le FPR, on serait accusé de complicité de génocide.
Là, ça se serait vu quand même.
Et là, ils font enfin le rapport, le lien avec Bicêcero, qui est un échec total. On a affiché au monde entier qu'on venait pour s'occuper des rescapés et stopper les massacres. On trouve des rescapés et on les laisse pendant 3 jours. 3 jours pendant lesquels les 2/3 des rescapés vont être finis d'être massacrés par les génocidaires. Ces génocidaires dont on comprend que ce sont les forces que nous soutenons. Si nous avions été clairvoyants, à ce moment-là, nous aurions dû nous arrêter et dire nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas continuer. Les soldats rwandais
se vantait de massacrer les Tutsis. Et nous, nous avons continué à ne pas les voir, à ne rien entendre. Et cette opération complètement inouïe, où on s'est retrouvé à côté des génocidaires, à les aider, puisque à partir de cette date-là, on renonce à combattre le FPR, mais on crée une zone humanitaire sûre
qui va être sud-ouest du pays,
qui va être essentiellement sûre pour les génocidaires, qui va surtout permettre à tout ce pouvoir génocidaire et à leur armée d'aller s'exfiltrer tranquillement dans l'est du Zaïre, donc le Congo aujourd'hui, et de s'installer dans des camps de réfugiés. Ça, c'est la deuxième partie de la mission. Et au passage, on laisse ce gouvernement génocidaire qui est complètement fou. On le laisse organiser l'exode de leur population, qui avec une épidémie de choléra fait 100 000 morts supplémentaires. Et nous, nous tenons cette zone humanitaire sûre, qui est une espèce de refuge de protection pour les génocidaires. Nous avons mené des opérations de protection des rescapés dans cette zone.
Vous-même, d'ailleurs, vous les racontez dans
tout
le
à
livre.
Fait. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu la chance avec une équipe d'aller sortir des rescapés, qui étaient menacés d'ailleurs par les miliciens, dans la zone humanitaire sûre.
Vous avez même vu ces rebelles, vous les avez vus, hein. Il y a eu des moments de tension.
Assez forte. Il y a même un incident où on est obligé de neutraliser, enfin, de détruire une bande de ces miliciens interamoués, qui sont des soldats gouvernementaux qui ont enlevé leur veste, hein. Ça, j'en doute pas une seconde. Mais ce qui est terrifiant, c'est que dans cette période-là, on laisse organiser l'exode de la population et en même temps, on essaye de protéger les rescapés. C'est-à-dire que la mission est devenue complètement schizophrène. D'une main, on aide les rescapés et de l'autre, on protège les génocidaires. Voilà. C'est là où on est au bord de la folie. Et ça se termine dans la dernière partie du mois de juillet, alors qu'à ce moment-là, nous savons tout du génocide. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr.
Il y avait quelques journalistes sur place aussi. Hein.
Pour comprendre que ceux que nous soutenons sont ceux qui ont commis le génocide. Le génocide, techniquement, se clôture le 17 juillet, mais les massacres continuent. Et nous, nous recevons l'ordre d'aller leur livrer des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre. C'est-à-dire qu'on va durablement installer une guerre latente dans tout l'est du Zaïre pour les 20 ans qui viennent.
Une semaine d'actualité.
Et parlons maintenant, Guillaume Ancel, des grands rendez-vous de l'actualité française ces derniers jours. Et d'abord des propos d'Emmanuel Macron qui ne sont pas passés inaperçus devant les évêques de France. Le président d'un État laïque a en effet lancé en quelque sorte un appel à la mobilisation des catholiques. Valérie Gaz.
Emmanuel Macron a d'emblée donné le sens de son discours devant la conférence des évêques.
Le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé. Il nous importe à vous comme à moi de le réparer.
Après un long développement sur l'importance de la foi, de l'engagement des catholiques dans la société, notamment en évoquant le sacrifice du gendarme Arnaud Beltrame, le chef de l'État s'est interrogé.
Certains pourront considérer que de tels propos sont en infraction avec la laïcité. Mais après tout, reconnaître les uns n'est pas diminuer les autres.
Emmanuel Macron a poussé la réflexion jusqu'à toucher des sujets très polémiques.
Je sais que l'on a débattu comme du sexe des anges des racines chrétiennes de l'Europe et que cette dénomination a été écartée par les parlementaires européens. Mais après tout, l'évidence historique se passe parfois de symboles. Et surtout, ce ne sont pas les racines qui nous importent, car elles peuvent aussi bien être mortes. Ce qui importe, c'est la sève. Et je suis convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation.
Et pour faire vivre la nation, Emmanuel Macron a répété plusieurs fois quelle participation il attendait des catholiques.
Ce à quoi je veux vous appeler ce soir, c'est à vous engager politiquement.
Des propos qui ont provoqué une levée de boucliers immédiate de la gauche qui a dénoncé une mise en cause de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État.
Emmanuel Macron qui a peut-être trouvé son principal opposant, l'ancien président François Hollande, qui mardi soir à la télévision a critiqué sa méthode et sa politique sociale à l'occasion de la sortie d'un livre sur son quinquennat, Marine de la Moissonnière.
En juin dernier, François Hollande avait promis de se taire pour laisser son successeur travailler, un engagement qu'il n'aura pas respecté bien longtemps. L'ancien chef de l'État s'est déjà exprimé à plusieurs reprises pour commenter l'actualité et la politique d'Emmanuel Macron. Cette fois-ci, dans son livre, il en remet une couche. Il accuse notamment le président de creuser les inégalités en France. Il l'a redit ce mardi soir sur France 2.
Pourquoi aller demander un effort aux personnes qui sont en retraite et consentir un allègement d'impôts pour les les très riches. Il fait un pari qui n'est pas le bon et il n'y aura pas de croissance durable, de cohésion et de paix s'il y a ce creusement des inégalités.
François Hollande revient aussi sur son quinquennat pour le défendre, bien sûr, opération réhabilitation, surtout au niveau économique.
Ce qui comptait pour moi, c'est que le chômage puisse baisser et il a baissé. J'ai fait en sorte d'avoir une politique qui a donné ses résultats. Et si aujourd'hui, il y a des résultats, j'en suis heureux.
François Hollande concède malgré tout quatre regrets majeurs, la déchéance de nationalité, la méthode et le calendrier de la loi travail et enfin la PMA et le droit de vote des étrangers, promesses de campagne non tenues. Il pourra en ajouter un cinquième à sa liste qu'Emmanuel Macron vienne troubler son opération de communication. Le président sera en effet l'invité du 13h de TF1 ce jeudi.
Interview dont on vous a parlé dans nos journaux jeudi précisément. Autre entretien prévu demain dimanche sur BFM, cette fois et Mediapart.
Sept jours en France.
Et lundi, Guillaume Ancel, les gendarmes ont commencé à évacuer la zone de Notre-Dame-des-Landes, ces terrains voués à la construction d'un aéroport qui a été annulé. Alexis Bédu à Nantes lundi.
Des manifestants très remontés dans les rues de Nantes. Pas dehors avec les CRS, mais sur les visages beaucoup de tristesse après les premières expulsions de zadistes. L'évacuation de la ferme des Sans-Noms, lieu de vie emblématique de la ZAD, a particulièrement choqué ce jeune manifestant.
L'expulsion des Sans-Noms, elle est symptomatique du fait qu'il ne faut absolument pas faire confiance à l'État, et en particulier à l'État macroniste, puisque derrière la communication millimétrée et les grands sourires, la parole de la préfète, c'était qu'évidemment les projets agricoles ne seraient pas attaqués, et ils les ont attaqués avec une force totalement délirante. C'est un gouvernement qui passe son temps à parler de dialogue et à planter le couteau dans le dos des gens, donc il faut évidemment plus écouter ce que dit ce gouvernement.
Henri, lui, estime que malgré l'abandon de l'aéroport, rien n'est encore décidé pour ce territoire. Il est prêt à aller sur place pour le défendre.
Il y a quand même eu tellement de malversations et de mensonges dans cette histoire que est-ce qu'on devrait y croire les gens parce qu'ils ont, ils sont engagés à ne pas le faire cet aéroport ? Rien n'est fait encore sur ce territoire. Donc il est encore pour moi à protéger et surtout par les gens qui ont mené cette lutte et qui sont en fait les héros de l'histoire.
La pluie et quelques jets de gaz lacrymogènes des CRS ont mis fin à ce rassemblement. Il y en aura d'autres si les expulsions se poursuivent.
Et les expulsions ont continué toute la semaine, mercredi notamment. Nouvelle grève à la SNCF aujourd'hui, alors que l'Assemblée nationale a commencé la discussion sur la réforme de la Société nationale des chemins de fer, modifiant son statut juridique, lui permettant à terme d'être éventuellement privatisé. La mobilisation des cheminots, des conducteurs notamment, est toujours forte. Écoutez-les lundi à Paris avec ce reportage de David Bachet.
Les cheminots, et ils sont chauds, et ils sont chauds.
Ils sont chauds et ce n'est pas la pluie qui tombe à verse qui pourra éteindre leur flamme. Les cheminots en grève sont venus exprimer leur défiance vis-à-vis des députés qui entament l'examen du projet de réforme de la SNCF. Yann travaille en atelier à l'entretien des TGV. Il ne croit pas du tout au débat parlementaire.
La véritable opposition, c'est dans la rue, c'est nous la véritable opposition. Moi, je ne compte pas après voilà, cette mascarade démocratique. Il faut construire un mouvement. C'est ça qui fera la différence. La force des travailleurs, c'est la grève, en fait. Il faut que ce rapport de force il se construise. Il y a un petit climat dans le pays. Macron, il cristallise tous les mécontentements. On le voit bien dans les EHPAD, il y a les éboueurs, les étudiants. Il leur rend le retour de boomerang.
Stéphane, cheminot parisien depuis 20 ans, demande une chose aux députés.
Qu'ils changent d'avis, mais j'y crois pas. C'est nous qui allons leur faire changer d'avis avec tous les autres cheminots. Il faut qu'ils se mettent tous en grève. Et pourquoi pas étendre à d'autres? Parce que c'est la SNCF là, mais il y a d'autres projets derrière encore. Et ça va dérouler, et pour tous les citoyens.
La ministre du Transport, Elisabeth Borne, est venue défendre son projet de loi devant les députés, tout en continuant d'appeler les syndicats au dialogue.
Public, privé, même combat. Public, privé, même combat.
Et suite d'une semaine d'actualité, Guillaume Ancel, avant de reparler du Rwanda, voulait dire un mot sur la SNCF. Un sujet qui vous intéresse.
J'ai travaillé pendant 7 ans pour la SNCF. C'est une entreprise qui est extrêmement attachante. Et en même temps, c'est une entreprise qui n'a jamais su se transformer autant que cela a été affiché par ses dirigeants.
C'est clair. C'est bref. Vous n'en direz pas plus. On retourne au Rwanda, Guillaume Ancel. On va bientôt partir pour l'Afrique dans notre émission. Je voudrais revenir sur cet épisode, entre guillemets, qui s'est passé en juillet 1994 sur l'aéroport de Siangugu. Qui en dit long aussi. C'est un des points forts de votre livre, ce témoignage.
Disons que, en plus, si on le resitue dans son contexte, donc le génocide vient de se terminer, on est au-delà de mi-juillet, et maintenant on sait tout des massacres qui ont été commis. On sait qui l'a fait, on sait dans quelle ampleur, c'est un vrai désastre, et on est encore là à escorter donc les membres du gouvernement génocidaire pour qu'ils veulent bien aller s'installer dans les camps de réfugiés au Zaïre. On aurait pu s'arrêter là, ce qui était déjà monstrueux. Mais non. Suite à une directive qui forcément vient du plus haut niveau de l'État, parce que je le rappelle, c'est sûrement pas un officier de l'armée française qui pouvait prendre cette décision, nous sommes allés livrer des armes dans les camps de réfugiés aux génocidaires pour qu'ils puissent continuer à se battre.
C'est-à-dire que vous avez vu ce jour-là, enfin,
moi je l'ai su parce que je rentrais d'une mission d'extraction de rescapés et le commandant adjoint de la base de Siangougou m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient sur la base. Je n'ai pas compris pourquoi, il m'a dit parce qu'on a un convoi d'armes qui part dans quelques minutes vers le Zaïre. Et pendant que je discute avec les journalistes, je vois passer dans leur dos la dizaine de camions, porte-conteneurs, qui partent vers le Zaïre. Le soir, on a un débriefing sanglant. Les débriefings sont toujours très ouverts dans l'armée terre, pas la SNCF. Et je suis effaré de m'entendre dire que on livre des armes parce qu'on souhaite montrer... donner des gages de confiance aux forces gouvernementales. Comme si en les réarmant, elles allaient être moins dangereuses et comme si on n'avait pas encore compris que c'est elles qui avaient commis le génocide.
Mais soyons clairs, il ne s'agit pas des armes saisies dans cette zone protégée, il s'agit d'armes neuves, enfin.
J'ai longtemps pensé que c'était les armes qu'on avait saisies sur les quelques checkpoints qu'on avait mis en place. En réalité, j'ai compris, grâce à l'intervention maladroite de l'ancien commandant du groupement, qu'à cette époque-là, on n'avait pas assez d'armes pour remplir des camions. Donc, ce sont plutôt des containers qui avaient été délivrés au Rwanda et qu'on nous a demandé de ramener pour que les forces gouvernementales puissent continuer à se battre. Ça veut dire que la France a livré des armes avant, pendant et après le génocide aux forces gouvernementales. Voilà, c'était ça la mission humanitaire.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique, Guillaume Ancel, d'abord en Centrafrique, où les tensions sont toujours fortes, à Bangui notamment, dans le quartier du PK5, où l'ONU est intervenue pour désarmer et arrêter des groupes d'autodéfense. Correspondance d'Edouard Dropsy.
Des barricades, des vestiges de pneus calcinés, des hommes en armes partout. Ce sont les seuls, ou presque, qui se déplacent dans le quartier et montent la garde à la sortie de l'avenue Boganda, l'axe principal qui mène au centre-ville de Bangui. De nombreuses boutiques sont toujours criblées d'impacts de balles après l'opération du week-end, ce qui met en rage Ben Saïr, un commerçant du PK5.
Pourquoi veux-tu qu'ils viennent de détruire ma boutique? Vous voyez ça, c'est devenu quelque chose de religion, alors que c'est pas ça. Ils venaient pour prendre quelqu'un et voilà, le quelqu'un c'est où? Il est là-bas.
Dans une rue perpendiculaire à l'avenue Koudoukou, habituellement pleine de vie, se trouve le QG du général Force. Depuis plusieurs semaines, il se livre à un bras de fer avec la MINUSCA qui, à la demande des commerçants du quartier, a décidé de le désarmer, ce que refuse le chef de guerre.
Mais pour nous désarmer, il y a une condition. On ne peut pas désarmer quelqu'un comme ça, comme un animal. Il faut désarmer tous les 7 arrondissements et tous les quartiers.
Dans ce quartier fantôme, des graffitis non à Touadéra et à son gouvernement anti-Balaka surgissent parfois. Une manière pour les habitants du kilomètre 5 de montrer leur défiance face à l'exécutif, comme le déplore Hadès.
Les forces et défenses de sécurité ne sont pas partiales. Ils sont venus contre les musulmans. C'est ce que nous avons constaté et ça n'a pas marché.
Cette tension se traduit aussi par des prises de position politico-militaires. Le FPRC, la principale faction de l'ex-Séléka, qui contrôle une grande partie de l'est du pays, a d'ores et déjà mis en garde le gouvernement, accusé de remettre en cause l'initiative pour la paix emmenée par l'Union africaine.
À suivre bien sûr dans nos journaux, direction le Togo maintenant, où l'opposition a décidé de reprendre ses manifestations contre le régime. Karine Franck.
La manifestation, c'est notre force de dissuasion populaire. L'opposant Jean-Pierre Fabre le reconnaît, la trêve est rompue. L'objectif clairement affiché est de continuer à peser pour se faire entendre, ne pas se laisser bercer par le rythme jugé trop lent des consultations, ne pas donner l'impression d'être tombé dans le piège du pouvoir. Après un mois de suspension, le dialogue avait repris le 23 mars avant d'être de nouveau ajourné. Les positions semblent à ce jour irréconciliables. L'opposition refuse notamment que le président président Fornia Simbé puisse se représenter en 2020 pour un quatrième mandat et le chef de file de l'opposition de préciser « Depuis 1991, nous avons cédé tout ce qu'il était possible de céder, nous ne céderons plus sur rien ». De son côté, le pouvoir rejette l'idée qu'une modification de la Constitution puisse interdire à un individu d'être candidat. « C'est inacceptable », explique un proche du chef de l'État. Fornia Simbé est togolais comme nous tous, insiste cette source. Aujourd'hui, l'opposition rompt donc la trêve. Si nous gardons notre liberté de manœuvre, nous ne nous retirons pas des discussions pour autant, indique toutefois Jean-Pierre Fabre. Aucune date de reprise du dialogue n'est pour le moment avancée, mais les consultations se poursuivent chez le facilitateur.
À noter aussi dans l'actualité africaine, le crash d'un avion militaire au sud d'Alger. Il a fait 257 victimes et des manœuvres dans l'ouest et le nord du Niger. 1500 militaires africains, américains et européens y participent.
Sept jours en Afrique.
Pour parler du Mali, cette fois Guillaume Ancel, et beaucoup de questions après la mort de 14 personnes il y a une semaine à Dioura, dans la région de Mopti. Selon le gouvernement, il s'agit de terroristes. Pas si sûr, cependant, Clémentine Palotsky.
Pour Human Rights Watch, le ministère de la Justice doit lui aussi s'emparer du dossier. Corinne Dufka, directrice adjointe en charge de l'Afrique de l'Ouest depuis Washington.
Si le groupe comme Human Rights Watch et Amnesty International et les autres ont publié les allégations crédibles, le ministre de la Justice doit ouvrir les enquêtes. Ils ne sont pas là pour protéger certains soldats qui ont fait cette embavure.
En attendant les enquêtes, l'organisation préconise la suspension des agents impliqués dans de tels abus. Elle demande une enquête élargie sur les événements de Dioura, mais également sur des cas de torture et de décès en détention. Des faits qui se sont produits entre février et avril 2018 dans la région de Mopti. Selon Human Rights Watch, les enquêtes précédemment annoncées n'ont donné que peu de résultats, mais l'organisation salue des efforts de l'armée en matière de transparence. Amadou Koïta, le porte-parole du gouvernement malien.
Aujourd'hui, le plus important, c'est que la volonté politique y est. Le plus important, c'est que nous sommes respectueux des droits de l'homme. Et dès que les enquêtes sont, les résultats sont disponibles, le rapport sera publié.
S'il y a eu bavure, assure le porte-parole du gouvernement, les responsables devront en répondre devant la justice malienne.
Retour à notre invité Guillaume Ancel pour continuer à parler du Rwanda et à partir de votre livre, de ce témoignage qui s'intitule « La fin du silence » publié aux éditions Les Belles Lettres dans la collection Mémoires de guerre. Vous avez, Guillaume Ancel, quitté l'armée en 2005. Vous avez quitté le Rwanda une décennie auparavant avec... C'était en juillet, hein, c'est ça, vous êtes resté jusqu'en juillet. Avec la volonté d'en savoir plus, dès le départ, dès votre retour en France.
Oui, et depuis 24 ans, vous n'imaginez pas les pressions, les contraintes et parfois les menaces dont j'ai fait l'objet sur le thème « il ne faut pas en parler, il ne faut pas dire la réalité de ce qui s'est passé ». Je trouve que c'est indécent et irresponsable. Voilà. Je pense que, d'une part, ça a été mené au nom de la France, les Français ont le droit de savoir. Moi, mon témoignage n'est qu'un tout petit morceau de la réalité, c'est une pièce du puzzle, mais elle est incompatible avec cette version officielle qui est une fiction, qui est une fable. Et vis-à-vis du million de victimes que nous n'avons pas su empêcher, ayons au moins la dignité de reconnaître la réalité et d'honorer leur mémoire.
Alors en 1998, vous êtes intervenu devant la mission d'information parlementaire.
J'ai été interdit, bien sûr, c'est-à-dire que j'ai demandé à être auditionné par la mission parlementaire d'information et le ministre de la Défense de l'époque m'a envoyé un membre de son cabinet pour me signifier que c'était même pas imaginable.
Ouais. Alors on vous pose souvent la question de savoir pourquoi vous écrivez ce témoignage aujourd'hui, mais il est important de préciser que ça fait des années que vous témoignez.
En fait, je témoigne de ce sujet depuis 24 ans. J'ai été interdit de passer devant la MIP. Dans l'armée, j'ai toujours eu la parole libre. L'armée ne m'a jamais empêché d'en parler, à condition que je ne l'exporte pas et que je n'écrive rien. Et quand j'ai quitté l'armée, j'ai commencé à témoigner. J'ai témoigné plus d'une centaine de fois sur le sujet du Rwanda. J'ai été abasourdi des menaces, y compris physiques, qui ont pu être exercées contre moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé, il y a 2 ans, avec Les Belles Lettres, d'écrire intégralement mon témoignage pour que mon témoignage ne puisse pas être effacé. Voilà. Donc, je ne suis que un parmi d'autres, et j'espère qu'après moi, d'autres témoigneront encore. Mais plus que tout, ce que j'espère, c'est que, enfin, le président de la République aura le courage d'ouvrir les archives et de nous permettre de voir la réalité et d'assumer nos responsabilités sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis.
Alors, il y a déjà eu des promesses de déclassification de certains documents, mais ce qu'il faudrait, c'est que tous les documents le soient déclassifiés.
En réalité, depuis 25 ans, nous vivons au rythme des promesses jamais tenues, puisqu'elles se succèdent les unes aux autres. Et la dernière, c'est celle de François Hollande, le président, en 2015, qui, pour essayer de fermer le débat que nous avions initié sur la base de mon livre précédent, dit « nous allons ouvrir les archives ». Alors d'abord, c'est une reconnaissance que les archives étaient fermées, alors qu'elles étaient réputées être ouvertes. Mais surtout, il s'est empressé de ne pas donner de réalité à cette ouverture. Et un camarade du CNRS, qui a écrit à l'Institut François Mitterrand pour avoir accès à une partie des archives, s'est vu répondre par écrit. Ces archives sont ouvertes, mais non consultables.
Ah oui, c'est intéressant comme réponse, effectivement.
C'est une autre culture.
Ouais.
Sans doute une culture démocratique, en tout cas, ça n'est pas la mienne.
Quand vous dites que vous avez été menacé physiquement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, une officine qui était montée par un ancien officier de la Légion étrangère, qui est hier, on aurait dit mercenariat, aujourd'hui on dit cabinet d'intelligence économique, m'a dépêché un homme aux chaussures cloutées pour essayer de me convaincre, puis me dissuader, puis me menacer de ne pas continuer à témoigner sur le sujet. Il y a d'autres menaces, mais je ne peux pas les détailler ici.
Alors, votre livre est extrêmement important pour comprendre ce qui s'est passé au Rwanda, même si vous dites et répétez que c'est un témoignage limité et subjectif. C'est un témoignage qui est important, mais c'est aussi une réflexion, c'est sans doute pour cela aussi qu'elle a été publiée aux éditions Les Belles Lettres, Mémoire de guerre, une réflexion sur le soldat, sur le rôle, la mission d'un soldat dans ce genre de circonstances, coincé en quelque sorte avec les ordres qu'il reçoit par un pouvoir politique qui est flottant. En fait, hein. Et Sarajevo, c'était la même chose. Je me souviens très bien des grands débats sur les résolutions de l'ONU qui demandaient surtout aux casques bleus de ne pas répondre, alors qu'ils étaient face à un conflit.
Vous avez raison, mais pour moi, c'est aussi une réflexion sur la politique de la France avec ses interventions militaires.
Oui.
D'abord, d'en connaître la réalité. Je pense que c'est quand même un incontournable pour les Français de savoir ce qu'on fait en réalité en leur nom.
C'est la moindre des choses, dirait-on.
Et la deuxième chose, c'est de savoir comment on emploie cet outil militaire qui appartient à la France. Moi, j'estime, en tant qu'officier, que j'ai été compromis par les ordres qui ont été donnés au Rwanda comme à Sarajevo, qui ont consisté à nous faire soutenir les bourreaux de l'époque. À Sarajevo, les agresseurs, qui étaient serbes, et au Rwanda, les bourreaux, les génocidaires. Vous vous rendez compte? On s'est retrouvés à leur côté, on les a soutenus, on les a protégés, on les a réarmés. Je suis désolé, mais c'est inacceptable. Et quand on ouvrira les archives, je pense que on pourra enfin regarder les choses en face et surtout aller chercher les responsabilités des décideurs de l'époque qui essayent encore de s'abriter derrière le silence de l'armée pour se protéger.
Saura-t-on un jour la vérité, à votre avis ? Vous y croyez ?
Je l'espère et je ferai tout pour qu'on connaisse la vérité avant que nous ayons tous disparu, les protagonistes de cette affaire.
Merci Guillaume Ancel. Il faut lire votre livre qui s'intitule « Rwanda, la fin du silence », témoignage d'un officier français publié aux éditions Les Belles Lettres dans la collection Mémoires de guerre. Merci.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Notre invité sera Roger Paul Droit et avec lui, à l'appui de son dernier livre, nous nous demanderons ce que Platon dirait de notre monde. Que dirait Platon de ce qui s'est passé au Rwanda? Platon avec nous donc demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.